Ovio.
Matin première, il est 7h46. Bonjour Anne Gruet.
Bonjour.
Vous êtes juge d'instruction à Bruxelles, devenue célèbre hein, après le documentaire Ni juge ni soumise qui vous filme dans votre quotidien et vous sortez un livre, Thomas Guédisseux, que vous avez parcouru.
Tais-toi si la justice m'était comptée, c'est le titre. Ce sont des récits de vie que la juge croise dans son quotidien, des récits drôles et durs, haut en couleur, comme l'est Madame la juge Anne Gruet. Elle y trace les enjeux qui attendent le monde judiciaire, le rôle de la prison dans notre société complexe et la place de l'humain, surtout dans ces drames qui dessinent son quotidien. Un ovni dans la profession, quasi devenu un phénomène. Vous l'avez dit, le documentaire Ni juge ni soumise, primé au César et au Magritte, a filmé son quotidien. Le film qui doit son succès à la personnalité bouillonnante d'Anne Gruet.
Mon but n'est pas de vous faire crever. Si vous vous mettez à vivre encore après la prison, ça coûte une fortune évidemment, parce que vous allez être au CPAS. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite. Si demain, vous êtes libéré, vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête qu'on verra dans la presse en disant « Cette connasse a libéré un type dangereux. »
Le 7-9 de Matin Première.
Anne Gruet, vous vous dites faire preuve d'humour hein, comme bouclier face aux dures réalités que vous rencontrez quotidiennement dans votre métier. Que vous inspire l'actualité politique en ce moment ? De l'humour aussi ?
Manque d'humour de temps en temps quand on entend les phrases que peuvent se balancer les hommes politiques. Et c'est ce que j'observe aussi. On nous bassine avec le politiquement correct. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire. Enfin, quand j'entends certaines phrases que je n'oserais pas répéter, je me pose des questions quand même si l'exemple vient réellement d'en haut.
Votre livre, hein, c'est une sorte d'autopsie de notre société et aussi de la manière dont on exerce la justice en ce moment. Vous évoquez par exemple une situation dans votre bureau de juge où chaque matin arrivent les charrettes avec les procès-verbaux. Alors vous écrivez ceci, les hommes de la charrette sont appelés les cachalots pour une dénomination officielle en fait de cash flow. Ils sont sous contrat renouvelable de 4 en 4 mois et attachés à un numéro qui est celui du malade de longue durée qu'ils sont censés remplacer. Quand je pense que c'est au nom du ministre de la justice qu'à la fois sont signés ces contrats et sont rédiger les lois, qu'on ne s'étonne pas que ces lois portent le nom de Potpourri 1, Potpourri 2 et Potpourri 3. Quelle est encore votre foi dans ce monde politique qui dicte aussi votre quotidien ?
La foi dans le monde politique, ça c'est une chose, j'ai foi dans les hommes. Dans les hommes homo hominis, les hommes de manière générale pour être bien comprises. Donc j'ai foi dans les hommes, je n'ai pas nécessairement foi dans leurs idées. Mais je crois effectivement que les gens... ils croient à ce qu'ils font, sinon ce serait désespérant. Je prends un bête exemple. J'aime beaucoup l'architecture à Bruxelles et je m'y intéresse. Quand on démolit un bâtiment que je trouve vraiment chouette, il y en avait un, rue Béliard, qui est en train d'être démoli pour le remplacer par une espèce de tour de verre complète que je n'aime pas, je me réjouis toujours qu'il y en ait d'autres qui trouvent ça bien. Donc je suis parfaitement contre ce que le ministre de la Justice est en train de proposer, c'est-à-dire tout à la procédure écrite ou à peu près et à la vidéoconférence, parce que j'estime que c'est une déshumanisation et que la justice n'est pas faite pour ça. Mais d'un autre côté, je constate qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas mal. Et que ça va plus vite. Donc je me réjouis quelque part que nous ne soyons pas tous du même avis et qu'on puisse le dire, ce qui veut dire qu'on est encore en démocratie.
Et ces collaborateurs qui arrivent donc avec les charrettes des procès-verbaux chaque matin et que vous appelez cachalots, ils existent vraiment ?
Oui, tout à fait, bien sûr. Tout le monde le sait, c'est pas moi qui ai inventé cachalots, hein.
L'état de la justice.
L'état de la précarité de la justice, tout à fait.
On parle de son refinancement, on est en pleine négociation politique. Vous y croyez vraiment, ça ?
Au refinancement de la justice, oui, les gens vont peut-être bien payer 1 euro de plus.
Comment se traduit la précarité de la justice dans votre quotidien ?
Précarité, c'est-à-dire que les gens croient que la justice ne donne plus l'image d'un pouvoir fort à l'égal des autres. Alors, visitez simplement le Parlement qui se trouve en face du Palais Royal, vous allez voir quelque chose. Visitez le Parlement bruxellois, vous allez voir autre chose, c'est magnifique. Visitez le Palais de Justice, ben, vous le faites avec votre seau d'eau pour récupérer les gouttes qui tombent du plafond.
Anne Gruet, vous évoquez dans votre essai quantité d'histoires hein, qui défilent dans votre bureau de juge, notamment des histoires de violences familiales, de violences envers les femmes, et vous écrivez ceci, c'est quoi le féminicide sinon plongé dans cette image d'épinal du sexe faible ? Le mot féminicide vous pose problème ?
Je ne connais pas le mot viricide. Et je ne veux pas connaître le mot féminicide. Tuer un être humain, c'est tuer un être humain. Je suis l'égale de l'homme, en tous les cas en droit, peut-être pas dans les faits, parce que l'homme n'accouchera en principe, en tous les cas pas tout de suite, mettons. Donc, nous ne sommes pas égaux. En fait, nous sommes complémentaires, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais dans le meurtre, tuer un homme vaut tuer une femme, mais le contraire est exact aussi, moi je comprends pas.
Mais de plus en plus de femmes se font tuer parce qu'elles sont femmes. Ça, c'est pas un fléau, selon vous ? Peu importe le mot qu'on met.
Pourquoi ? Alors, je voudrais analyser le fait, pourquoi parce qu'elles sont femmes ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes ou est-ce que c'est parce qu'elles sont physiquement plus faibles que l'homme ? Hypothèse dans laquelle, quand vous vous attaquez à une personne vulnérable et cette circonstance aggravante est prévue dans le code, c'est suffisant.
Et donc, selon vous, l'arsenal actuel
est suffisant ? Et j'ai parlé de la violence envers les faibles. J'en ai fait un tout petit paragraphe, et je préfère qu'on me parle de la violence envers les faibles plutôt que du féminicide.
Parce que c'est un mot qui est, en tout cas, au cœur des débats. La question, c'est de le faire
entrer dans
le code
pénal. Parce que c'est un mot général qui ne fustige pas une partie de la population.
Et c'est un débat politique, selon vous ? Il n'y a pas besoin de renforcer l'arsenal judiciaire ?
Non.
Et les hommes sont plus violents que les femmes ? Vous dites que les femmes sont plus faibles.
Les hommes sont plus forts que les femmes.
Hein. Et donc,
dans un combat au corps à corps, mettons qu'il doit y avoir 80% ou 70% de chances que l'homme l'emporte.
Et donc, il ne faut pas protéger davantage les femmes ?
Parce que les hommes ne savent pas. Parce que les hommes, éduqués pour moitié par les femmes, ne savent pas juguler leur violence. Mais je rigole.
Vous rigolez, mais ça fait quand même l'objet d'un débat. Et vous dites vous-même, je sais qu'en disant ces mots, ça va poser problème. Vous avez commencé cette interview en disant qu'il n'y a plus de place au politiquement incorrect. On est justement dans juste des symboles politiques, selon vous. Il y a quand même une réalité derrière le terme féminicide à laquelle vous vous confrontez chaque jour dans votre bureau.
Tout à fait, bien sûr. Il y a une réalité, mais il y a une réalité de la violence envers les faibles. Mais je refuse, je trouve que taxer le meurtre d'une femme qui s'appelle un homicide, enfin un meurtre, un assassinat, etc., qui s'appelle un homicide, de féminicide, c'est faire des femmes une catégorie séparée. Or, moi, je plaide pour le vivre ensemble.
Alors, un de vos chapitres aussi évoque ceci. Ils finissent toujours par tourner dans le même sens.
Oui.
Et vous écrivez, je mets en taule les enfants de mes premiers clients. Vous croyez que cela fait peur, mais la prison, ils connaissent. Petits, ils y rendaient visite à leur père. C'est un peu comme s'ils rentraient chez eux. Cette dernière phrase est cruelle. À quoi ça sert la prison, Anne Cruet, alors ?
Mais c'est pas cruel, c'est la réalité. Alors il faut savoir, moi je suis favorable à voir la réalité en face, à la décrire, parce que si vous ne la voyez pas, si vous passez votre temps à nier que les images qui sont devant moi sont rouges et non pas bleues, ben, je suis d'accord, hein, si on est, je ne sais plus comment on appelle ça, mais si on passe... Et si on passe son temps à vouloir voir le contraire de ce qui est, on ne parviendra pour moi jamais à solutionner ce qui est.
Ça veut dire que la prison produit des criminels et ces criminels vont d'office faire des enfants qui seront criminels.
Non, parce qu'il n'y a pas de fatalisme. Hein. Je refuse le fatalisme, je suis d'accord avec une part de liberté. L'homme est libre pour partie. Il est conditionné pour partie, il est libre pour partie.
Alors quand on entend ces mots durs, on se dit que ce livre n'est pas du tout drôle. Or, c'est le contraire, en fait. Quand on lit vos pages, on rigole quasiment lors de chaque scène. C'est un peu, on l'a décrit, c'est un peu votre arme, votre bouclier dans votre quotidien. Et pourtant, vous dites, je ne rigole pas de la misère. Je ne peux pas rigoler de la misère des autres, je peux seulement rigoler de ma misère à moi.
Oui, c'est tout à fait vrai. Je dis, je peux rire de ma misère à moi, ça c'est vrai. Et je peux rire avec l'autre de sa misère. Mais si l'autre ne participe pas, je veux dire, je peux dire à un client, mais regardez où vous en êtes maintenant, c'est plus possible cette histoire-là, etc. Il va généralement sourire en disant, ben oui, fais des conneries. Et là, on peut commencer. On peut commencer à travailler ensemble, et j'insiste sur le mot ensemble, à un avenir meilleur qui sera pour lui et pour moi, parce que le meilleur des autres vous rend le meilleur à vous-même.
Vous y croyez, vous, au rôle de la prison ? Je repose la question. Vous mettez les gens en tôle, pour reprendre vos termes.
Oui, je ne serais pas là, je serais plus juge d'instruction si je ne croyais pas au rôle de la prison. Je crois au rôle, effectivement, du coup d'arrêt à certains moments, quelque part. Mais je crois aussi à la nécessité très vite de reprendre les choses en main pour redresser la situation. Et je ne crois pas à la nécessité, sauf véritable examen, de la condamnation.
Alors la justice ne travaille pas encore sans papiers. Sur les sans papiers, oui, mais,
ouais.
Mais pas sans papiers. C'est ce que vous écrivez dans votre livre.
Oui.
Et ça vous fait peur, hein, cette digitalisation, cette informatisation de la justice. Or, c'est présenté justement comme le remède pour éviter qu'elle stagne dans la précarité, pour désengorger la justice.
Ah oui.
Pourquoi vous ne croyez pas aux évolutions ?
Ah, parce que quand moi je verrais un ordinateur faire un beau discours à quelqu'un pour lui dire finalement « je t'aime et je veux ton bien », alors là peut-être que je serais pour l'ordinateur.
C'est pour ça que vous n'utilisez pas le mot « justiciable » d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, vous parlez de client.
Non. Oui, j'aime pas le mot « justiciable » parce que ça recouvre rien. Le mot « client » au moins, ça veut dire « cet homme a des droits ». Cet homme ou cette femme a des droits, le client a des droits.
Alors, le commissaire Van der Smissen a été temporairement écarté, information qui est parue dans la presse ce matin. Il y a beaucoup de questions de violence policière quand même dans les débats en ce moment, dans l'actualité.
Oui. Hein,
on le voit, le commissaire Van der Smissen aux côtés d'un homme qui se présente comme un photoreporter.
J'ai pas vu.
Voilà,
j'ai
mais qui aide la police à arrêter des manifestants à l'aide d'une bombe de lacrymogène. Vous le côtoyez dans votre métier, monsieur Van der Smissen ?
Qui, monsieur Van der Smissen ?
Oui.
Non, pas du tout. Hein. Il s'occupe des manifestations. Moi, je m'occupe des conséquences éventuelles des manifestations.
Mais il est fort critiqué, en tout cas, pour ses interventions musclées. Se pose du coup la question, sans pointer cet homme-là particulièrement.
Non, j'aime autant
mais
pas,
on est d'accord, mais de la question des violences policières. C'est une réalité, selon vous, dans l'appareil, pour l'instant, policier et judiciaire ?
Mais il y a de la violence des deux côtés. Il faut quand même se rendre compte que le policier ne sait pas derrière qui il court et se fait monter son adrénaline de peur, tandis que le malfrat sait généralement qui lui court derrière, puisqu'on créera police derrière lui. Et il y a un gros problème de confrontation alors à ce moment-là, c'est-à-dire, il faut imaginer, vous venez d'entendre des tirs par exemple, ou n'importe quoi, vous êtes père de famille, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous avec une balle dans le ventre.
La confrontation qui mène peut-être parfois à du racisme ingrué. Est-ce qu'il y a des problèmes de racisme dans la police belge et bruxelloise ?
Des problèmes de... Oh, ben sûrement, comme partout.
Mais est-ce que la police ne devrait pas être, justement, exemplaire ?
Mais
à votre avis ?
Où avez-vous jamais trouvé l'exemplarité ? Est-ce que le monde politique ne devrait pas être exemplaire ? Est-ce que l'ensemble des manifestants ne devrait pas défiler dans l'ordre et la méthode ? L'exemplaire, le corps, un corps d'homme, homme ou femme, je précise maintenant, hein ? Donc un corps d'homme exemplaire n'existe pas. Chacun peut être exemplaire par unité, mais le corps, vous ne trouverez pas. Hein.
Anne Gruet, on sent que vous remettez chaque fois l'homme au centre de ces débats et vous terminez votre livre par ces mots. On finira par ceux privilégiés qui jouiront entre eux de contact humain et ceux laissés pour compte qui n'auront que le robot et la loi du marché pour interlocuteurs. Ils seront les plus nombreux et ils n'auront pas la terre, finalement, seule source de richesse.
Bah oui.
C'est la justice qui mène vers cette déshumanisation, selon vous ?
Ben pas du tout. Justement, non, la justice est encore un des derniers remparts contre la déshumanisation, puisqu'en justice, la confrontation se fait encore, et Dieu merci, face à face.
Tais-toi, c'est la justice, mais t'es compté. C'est le titre de votre essai, Anne Gruet, paru chez Racine. Et on précise aussi qu'on peut vous retrouver dans un podcast La Première, Noir, Jaune, Rouge, Belgian Crime Story. Vous racontez une histoire criminelle du plat pays aux côtés d'autres voix comme Christophe Bourdon ou Yasmina Douyeb. Merci, Anne Gruet, d'avoir été avec nous ce matin.
Mais je vous en prie, c'était avec plaisir.